France Inter.
Voici le 13-14, Christelle Rebière.
Bonjour à tous. Sans accord des partenaires sociaux, la réforme des retraites continuera à s'appliquer. C'est clair et net dans le compte-rendu du Conseil des ministres. Hier, François Bayrou a décidé de remettre les retraites en chantier sans tabou, mais sans dérapage non plus. Alors que va faire le PS, qui espérait que le Parlement soit saisi, quelle que soit l'issue des négociations? Comment les partenaires sociaux vont-ils négocier? À 13h30, je recevrai Sandrine Mouret de la CGT et François Asselin de la CPME, des petites et moyennes entreprises. Il y a ce qu'a dit le Premier ministre et aussi hier, tout ce qu'il n'a pas dit, en particulier sur le changement climatique. Il a été quasi muet. Dans ce journal aussi, la banalisation de la cocaïne. Plus d'un million de personnes en ont consommé en 2023, d'après l'Observatoire des drogues. Et nous verrons que l'offre explose. Trop de sucre dans nos caddies au supermarché. L'association de consommateurs Foodwatch alerte, Luc Chemla.
Ah oui, les produits les moins chers sont les plus sucrés, principalement ceux des marques de distributeurs. Parmi les exemples marquants, les petits pois, la mayonnaise ou encore le guacamole, Foodwatch dénonce une hypocrisie et un marché à deux vitesses.
Cuba n'est plus un état non grata. Joe Biden sort l'île de la liste noire des pays défendant le terrorisme, et ce à 5 jours de l'arrivée de Trump à la Maison-Blanche. Des menaces de mort contre Sandrine Rousseau, un sociétaire de la Comédie Française risque d'être licencié, vous saurez pourquoi. Ils aimaient enfin savoir où ils habitent, en zone rurale. On se dépêche de donner des numéros et des noms de rues dans les lieux dits et autres hameaux. Reportage en Gironde. Et puis la chronique ciné du mercredi, Alexis de Meyer.
Avec à l'affiche cette semaine un film d'animation pour adultes, un docu sur les jeunes du monde entier et une déclaration d'amour au cinéma signée Arnaud Desplechin.
Une place de deuxième mais une véritable consécration. Johan Richaud est arrivé ce matin au Sable d'Olonne après 65 jours de mer. Un magnifique deuxième donc, qui dit sa fierté et aussi son plaisir. Vous l'entendrez à 13h30 donc. Nous reviendrons sur la réforme des retraites avec nos invités. Une ébauche de conclave en direct sur France Inter. Entre partenaires sociaux, nous serons avec la CGT et la CPME, et vos questions bien sûr 01 45 24 7000. Un grand homme dans le feuilleton de la semaine, Vincent Poirier, il mesure 2m 13. Le basketteur se confiera d'ailleurs sur sa taille dans ce nouvel épisode. Dans C'est la France, Eric Fotorino évoquera les questions d'héritage. Et puis dans la famille Chédid, le choix de Joseph pour C'est une chanson Blue Boy du Canadien Mac DeMarco. Bienvenue à tous, nous sommes ensemble jusqu'à 14h.
France Inter.
Remettre les retraites en chantier et laisser aux partenaires sociaux réunis en conclave 3 mois pour se mettre d'accord sur les futures modalités, sans tabou, mais sans accentuer le dérapage budgétaire. C'était la grande annonce de François Bayrou hier. Il est resté ferme sur sa position annoncée dès son entrée en fonction, reprendre la réforme sans la suspendre, au grand dam du PS qui voyait encore hier ce matin la possibilité d'un compromis. Olivier Faure a demandé au Premier ministre que le Parlement soit saisi de cette question, quelle que soit l'issue des négociations entre les partenaires sociaux. Sinon, une censure est possible. Le Conseil des ministres a eu lieu ce matin. Bonjour Julien Nenni.
Bonjour.
En direct de l'Élysée. Alors, il y a eu un cafouillage sur le calendrier dans la matinée, mais finalement, la première réunion des partenaires sociaux aura bien lieu, comme annoncé vendredi.
Oui, vendredi 11h, confirme Matignon ce matin, une réunion qui sera dirigée par François Bayrou et à laquelle sont invités l'ensemble des partenaires sociaux, dont le MEDEF, la CFDT et la CGT. Cette réunion servira à définir le cadre de la concertation de 3 mois à venir sur les retraites, ce que le Premier ministre a appelé le conclave. Conclave qui sera animé non pas par un cardinal, mais par un expert en négociation sociale qui doit encore être nommé. Aucun tabou sur le menu de ces discussions, a répété la porte-parole du gouvernement ce midi, y compris sur l'âge de départ à la retraite, pour l'instant toujours fixé à 64 ans. Mais attention, si ces négociations n'aboutissent pas, c'est là que politiquement ça se corse. Dans un tel scénario, vous l'avez dit, les socialistes réclament un vote au Parlement pour trancher, sous peine de censure. Sur ce point, François Bayrou ferme la porte. En cas d'échec des concertations, c'est bien la réforme actuelle qui continuera à s'appliquer. La porte-parole du gouvernement l'a confirmé à l'issue du Conseil des ministres. Alors, est-ce que le PS mettra ses menaces à exécution et votera à nouveau la censure demain? Rien n'est encore décidé, mais si c'est le cas, c'est une nouvelle fois le Rassemblement national qui tiendra l'épée de Damoclès.
Julien Nenni en direct de l'Élysée avec les moyens techniques de Corentin Bayet. Vous y faisiez allusion, Julien. Que va faire le Parti Socialiste? Les députés se réunissent à huis clos cet après-midi. Mais reprenons les chiffres de ce que coûtent réellement les retraites. François Bayrou s'est voulu pédagogue hier à l'Assemblée. Il a pointé une somme de 40 à 45 milliards d'euros que l'État doit débourser pour compenser ce qui pourrait s'apparenter à un déficit du régime des retraites du secteur public. publics. Alors Claire Chaudière, existe-t-il un déficit caché des retraites des fonctionnaires ?
C'est un débat qui monte à bas bruit depuis quelques années, alimenté par les réflexions d'un ancien haut fonctionnaire, Jean-Pascal Beaufret. Son raisonnement, il faut s'intéresser aussi à l'équilibre financier des retraites du public, ce qui n'est pas fait aujourd'hui puisque l'État règle l'addition tout simplement. C'est ça que pointe François Bayrou dans son discours, explique l'économiste à l'OFCE Mathieu Plane.
Ce que dit François Bayrou, c'est que si on appliquait le taux de cotisation du secteur privé à la masse salariale publique, on aurait un déficit des régimes de retraite publics entre 40 à 45 milliards. Et donc, c'est vrai que ça laisse penser qu'il y a un déficit caché extrêmement important.
Une photo juste à l'instant T, mais qui ne prend pas en compte, poursuit Mathieu Plane, la baisse du nombre de fonctionnaires dont les cotisations ne peuvent payer à elles seules la retraite de leurs prédécesseurs plus nombreux. Voilà donc un drôle de paradoxe. Plus l'État est vertueux budgétairement sur sa masse salariale publique, réduisant son déficit global, plus il doit compenser provisoirement en créant du déficit sur les retraites du public.
Et donc le paradoxe, ça voudrait dire que pour améliorer la situation du régime des retraites publiques, il faudrait embaucher beaucoup de fonctionnaires. C'est totalement contradictoire.
Contradiction et chiffrage sur lesquels se penchera probablement la Cour des comptes, appelée à jouer un rôle clé dans ce nouveau chantier.
Claire Chaudière, François Bayrou a dit qu'il comptait ramener le déficit public à 5,4% du PIB, mais sans entrer dans le détail. Ce matin, la ministre des Comptes publics a expliqué qu'il y aurait un effort d'économie de plus de 30 milliards d'euros sur les dépenses publiques et 21 milliards de hausse de recettes. Le Sénat reprend par ailleurs aujourd'hui l'examen de la partie dépenses du budget qui avait été suspendue par la censure. Un vote est prévu en première lecture le 23 janvier. Flou sur le budget, le Premier ministre hier a été peu bavard, cette fois, sur le changement climatique. Aucune référence à ses conséquences. L'enjeu a été expédié en 1 minute et 35 secondes exactement. C'est le discours de politique générale le plus pauvre du quinquennat sur ce thème. Et ça suscite, Rémi Brancato, la colère des acteurs de l'environnement.
Oui, pour France Nature Environnement, c'était un discours tout simplement désastreux. Il ne fait pas référence aux effets du réchauffement climatique sur notre quotidien, déplore Jean-François Julliard de Greenpeace.
Qu'un Premier ministre qui prend ses fonctions n'évoque même pas le fait que 2024 a été l'année la plus chaude jamais enregistrée, que la Californie est en train d'être ravagée par les méga incendies, c'est à tout le moins une déconnexion totale de la réalité. Je me souviens de Monsieur Barnier il n'y a pas si longtemps, qui certes n'avait rien dit de très concret, mais en tout cas il avait placé la question de l'urgence écologique très tôt dans son discours et comme l'un des socles fondamentaux de son programme. Elisabeth Borne avait fait pareil, et ce discours-là c'est sûrement l'un des plus faibles sur cette question-là.
Alors François Bayrou a défendu la place du nucléaire, le développement de l'hydrogène ou de la géothermie pour assurer une transition énergétique. Une vision passéiste, dénonce Anne Bringaud du réseau Action Climat.
Il est vraiment resté bloqué dans l'ancien monde puisqu'il a mis en avant le nucléaire. Il n'a pas du tout évoqué les énergies renouvelables, la rénovation des bâtiments, ni la sobriété, qui sont des leviers indispensables à la transition écologique. C'est particulièrement inquiétant.
Sans préciser d'ailleurs de quel budget disposerait la planification écologique, François Bayrou dénonce par ailleurs les contrôles armés des agents de l'Office français de la biodiversité qui font respecter le droit de l'environnement dans les fermes. Une humiliation, dit-il, pour les agriculteurs. Paradoxal, dit la Ligue de protection des oiseaux, pour un gouvernement qui a mis l'ordre au cœur de sa politique.
Rémi Brancato, une bonne et une mauvaise nouvelle aussi ce matin, qui sont en partie liées. La bonne d'abord, l'inflation continue de baisser, les prix ont ralenti en moyenne annuelle à plus 2% d'après l'INSEE, après deux années marquées par une forte hausse suite à la guerre en Ukraine. Mais le livret A sera sans doute moins rémunérateur à partir du 1er février. Le gouverneur de la Banque de France propose de le faire passer de 3% à 2,4%, première baisse depuis début 2020. De quoi relancer le financement du logement social, explique-t-il. Le livret d'épargne populaire passera, lui, de 4 à 3,5%. Le ministre de l'Économie va trancher.
France Inter, le 13-14. Christelle Rebière.
À 13h09 sur Inter, un chiffre marquant signe une fois de plus que la lutte contre le narcotrafic est un enjeu majeur pour notre pays. 1 100 000 personnes ont pris de la cocaïne au moins une fois en 2023, un chiffre qui a quasiment doublé en l'espace d'un an. Et l'étude que publie ce matin l'Observatoire français des drogues et des tendances addictives insiste sur une banalisation de la consommation. Les actifs y ont de plus en plus recours pour tenir au travail et cette drogue est perçue comme moins dangereuse, plus familière. Mais si on en est arrivé là, c'est aussi à cause de l'explosion de l'offre. Bonjour Ariane Grissel.
Bonjour.
La production mondiale n'a jamais été aussi élevée.
Oui, puisque la Colombie, qui est le principal fournisseur mondial, a multiplié sa production par 4 en 10 ans. En parallèle, de plus en plus de consommateurs nord-américains se tournent vers des drogues de synthèse. Donc, cette cocaïne, qui n'est plus vendue aux États-Unis, est déroutée vers l'Europe, en plus de ce qui était déjà acheminé, dont la France, un marché dans lequel les prix baissent légèrement. 66 euros un gramme de cocaïne aujourd'hui en France en moyenne, contre 70 en 2018. Les trafiquants n'hésitent pas à faire de la publicité sur les réseaux sociaux, proposer des cartes de fidélité et vendre par petites portions, ce qui rend la cocaïne accessible, y compris à ceux qui n'ont pas de quoi payer un gramme entier. En face, les enquêteurs admettent qu'ils n'ont pas les moyens de viser à la fois les revendeurs et les têtes de réseau. 47 tonnes de cocaïne ont été saisies en France l'an dernier, le double donc de 2023, selon le ministère de l'Intérieur, sans que l'on puisse dire si cela traduit une plus grande efficacité des enquêtes, une hausse de la présence de cocaïne dans le pays ou un peu des deux.
Ariane Grissel, le sucre aussi est une certaine forme d'addiction beaucoup plus douce mais nocive. Et les aliments que nous consommons en contiennent de plus en plus. D'après l'association de consommateurs Foodwatch, les produits transformés les moins chers dans les supermarchés sont aussi les plus sucrés, en particulier les marques distributeurs qui sont très prisées. Luc Chemla, donnez-nous quelques exemples.
Eh bien, prenez la mayonnaise. Les 5 pots les moins chers contiennent 4 fois plus de sucre que les 5 pots les plus chers. Pour le guacamole, c'est 2 fois plus. Pour les petits pois, c'est quasiment le double également. Autre produit où la différence est notable, les biscottes, les crackers apéritifs, les pizzas surgelées ou encore les sandwichs au pain de mie sont pointés du doigt les marques distributeurs d'Auchan, Leclerc, Carrefour, Intermarché et Coopérative U. Audrey Maurice de Foodwatch dénonce des résultats aberrants, surtout qu'un autre constat est fait.
Dans certains supermarchés, dans un même rayon, vous pouvez trouver des produits de marques distributeurs moins chers et plus sucrés et des produits de marques distributeurs plus chers et moins sucrés. Le cordon bleu de dinde premier prix Auchan, l'un des moins chers du rayon, il contient 1,2 fois plus de sucre que le cordon bleu classique Auchan parmi les plus chers du rayon.
Les enseignes savent donc se passer de sucre, c'est juste une question de volonté selon Foodwatch qui pointe une hypocrisie et un marché à deux vitesses. Mais alors, pourquoi utiliser autant de sucre ?
L'industrie agroalimentaire nous a quand même habitués au goût sucré. Il y a ensuite des questions économiques. Le sucre, c'est une matière première qui coûte peu cher et à l'échelle d'une usine, il y a des économies qui sont sûrement pas négligeables pour les industriels. Et enfin, pour des raisons techniques, le sucre, c'est un exhausteur de goût, c'est un conservateur et c'est une matière première qui remplit les produits au détriment d'ingrédients plus nobles.
Et au détriment de notre santé, ajoute Foodwatch qui alerte sur les risques d'obésité, de maladies cardiovasculaires ou encore d'hypertension.
Et l'ONG a initié une pétition pour demander aux 5 principaux distributeurs français, c'est-à-dire Auchan, Carrefour, Coopérative U, Leclerc et Intermarché, de revoir la recette des produits de leur propre marque. Elle a reçu pour l'instant près de 4000 signatures. Les agriculteurs, eux, aux urnes à partir d'aujourd'hui, ils votent pour élire leurs représentants syndicaux aux chambres d'agriculture. Le scrutin déterminera le rapport de force entre leurs syndicats qui ont tous gagné en visibilité depuis la crise de l'hiver dernier. L'enjeu, c'est de savoir si l'hégémonie de l'alliance FNSEA Jeunes Agriculteurs, à la tête de 97 chambres sur 101, contestées sur le terrain par la coordination rurale et la confédération paysanne, sera ou pas ébranlée. Résultat au plus tard le 8 février. La fièvre aphteuse est un sujet d'inquiétude pour les éleveurs. Le ministère de l'Agriculture va d'ailleurs renforcer les contrôles dans les élevages, alors que 3 cas ont été détectés en Allemagne, près de Berlin, chez des buffles d'eau. La maladie est sans danger pour l'homme, mais très contagieuse pour les animaux. Pour limiter la progression, les autorités ont mis en quarantaine les exploitations proches du foyer d'infection. Sébastien Baer a rendu visite à un éleveur à Werneuchen, à 1 heure de route de Berlin.
Chaque jour depuis samedi, c'est le même rituel. Vincent Overmars ouvre les robinets de ses cuves et jette son lait dans une fosse. Son exploitation se trouve dans la zone de surveillance des autorités, à moins de 10 km du foyer de fièvre aphteuse.
C'est vraiment pas de chance. On doit se débarrasser chaque jour de 35 000 litres de lait. On nous a dit que ça allait durer au minimum 30 jours. Pour nous, c'est une catastrophe. Cela représente 500 000 euros de pertes.
Le vétérinaire doit passer dans la journée pour faire des prélèvements et tester le troupeau de 700 vaches. Anke, qui travaille sur l'exploitation, redoute la propagation de l'épidémie.
On a pris des mesures, on a installé un pédiluve et on désinfecte. Mais on ne maîtrise pas tout. Il y a beaucoup d'animaux sauvages tout autour. autour qui peuvent propager la maladie. Et si les résultats des tests ici sont positifs, alors il faudra abattre les vaches.
Les élevages voisins de porcs, de moutons et de chèvres ont aussi été confinés et une cellule de crise mise en place, explique Denis Toumlirch, le directeur de la Fédération des agriculteurs du Brandebourg.
Notre objectif, c'est d'empêcher la propagation. C'est pour ça que les transports d'animaux sont interdits dans la région, car la maladie peut se répandre très très rapidement par voie aérienne.
Les deux zoos de Berlin ont aussi été fermés et le salon de l'agriculture qui débute vendredi se tiendra cette année sans les bovins, moutons et chèvres. Verneuchen, Sébastien Baer, France Inter.
Le Royaume-Uni interdit les importations de bovins, porcs et ovins en provenance d'Allemagne. L'Allemagne qui est en récession pour la deuxième année consécutive, une baisse de 0,2% de son PIB due à la crise de son modèle industriel. Les représailles, la Russie a lancé une attaque massive. 120 missiles et drones ont visé le réseau énergétique ukrainien et des dépôts de carburant. 7 régions sont touchées par des coupures d'électricité. Hier, l'Ukraine avait bombardé notamment une usine d'armement en Russie. Cuba n'est plus sur la liste noire des États défendant le terrorisme. Joe Biden multiplie les décisions fracassantes à 5 jours de l'investiture de Donald Trump. De quoi encourager la libération d'un nombre important de prisonniers politiques. On parle de 553 personnes. Frédéric Seyss, bonjour.
Bonjour.
Pourquoi cette décision spectaculaire ?
Eh bien, pour Joe Biden, c'est l'un des derniers contre-pieds au trumpisme. Donald Trump, partisan d'une pression maximale sur Cuba, c'est lui qui avait replacé l'île sur cette liste noire à la fin de son premier mandat il y a 4 ans. Alors que change la décision de Joe Biden ? Symboliquement, elle desserre l'étau. Cuba ne figure plus sur la même liste que l'Iran, la Syrie ou la Corée du Nord. En revanche, l'essentiel des sanctions économiques demeure. D'ailleurs, le ministre cubain des Affaires étrangères a salué une avancée certes positive, mais limitée. De son côté, la Havane s'engage à libérer 553 prisonniers, sans qu'on sache encore si parmi ces détenus figurent des manifestants arrêtés lors des protestations massives de l'été 2021. Alors cet apaisement entre les États-Unis et Cuba va-t-il se poursuivre sous Donald Trump ? Rien n'est moins sûr. Le futur chef de la diplomatie américaine s'appelle Marco Rubio. Il est issu d'une famille cubaine hostile au castrisme et le conseiller à la sécurité nationale choisi par Donald Trump, Mike Waltz, prévient déjà « Tout ce que vient de décider Joe Biden, c'est réversible ».
Et puis on attend toujours au Proche-Orient un accord final de cessez-le-feu entre Israël et le Hamas. D'après des sources proches du Hamas, 33 otages pourraient être libérés en échange d'un millier de détenus palestiniens. Le tourisme explose dans le monde. Deux exemples ce matin. L'Espagne, deuxième destination mondiale, a battu son record l'an dernier. 94 millions de touristes, une hausse de 10%. À l'autre bout du monde, record aussi au Japon, près de 37 millions de visiteurs à la faveur d'un yen assez faible. Mais à Kyoto, on déplore le surtourisme, la taxe de séjour va fortement augmenter. En France, à Rouen, garde à vue prolongée pour la conductrice qui a percuté 3 cyclistes hier matin. L'une d'entre elles est décédée. L'enquête se poursuit d'après le procureur pour reconstituer le parcours complet de cette femme, identifier d'éventuels autres témoins ou victimes et comprendre les motifs de son passage à l'acte. Elle évoque un mal-être important. Une enquête est ouverte pour meurtre, tentative de meurtre, refus d'obtempérer aggravé et transport irrégulier d'armes. La mort d'un enfant de 6 ans dans un incendie à Noyon dans l'Oise. Le feu s'est déclenché au premier étage d'un immeuble dans la soirée d'hier. La mère a réussi à sortir, mais pas le petit garçon. L'enquête s'oriente vers l'hypothèse d'un accident. À la Comédie Française, un pensionnaire convoqué pour un entretien préalable à son licenciement dans l'institution feutrée héritière de Molière. C'est un cas rarissime. Bonjour Stéphane Capron.
Bonjour Christelle.
La direction évoque des agissements graves contre la députée écologiste Sandrine Rousseau. De quoi s'agit-il ?
Eh bien, tout est parti de la commission d'enquête de l'Assemblée nationale sur les violences commises dans les secteurs du cinéma et du spectacle vivant. Elle est présidée par Sandrine Rousseau et lundi, lors de l'audition d'Éric Ruff, l'administrateur de la Comédie Française, elle lui apprend que Nazim Boudjena a exercé des menaces de mort à son encontre cet été. Elle a porté plainte et l'affaire sera jugée le 6 juin. Ce comédien avait déjà été condamné à 6 mois d'emprisonnement avec sursis pour des menaces de mort proférées sur son ancienne compagne. Il avait été relaxé pour violence. L'affaire avait d'ailleurs été à l'origine de la création du collectif MeToo Théâtre. Malgré cette condamnation, le comédien est resté dans les effectifs de la Comédie Française, même s'il n'a jamais plus été distribué dans aucun spectacle. Et la découverte de faits nouveaux autorise donc la Comédie Française à le convoquer à un entretien préalable en vue de son licenciement. L'institution se défend et réfute fermement les allégations d'inertie dans cette histoire. Le collectif MeToo Théâtre avait prévu d'organiser une manifestation à la fin du mois devant la Comédie Française. Sentant le vent de la contestation, l'institution a donc pris les deux vent pour essayer d'éteindre l'incendie.
Stéphane Capron, une adresse pour ceux qui n'en avaient pas, faute de numéro ou de nom de rue en zone rurale. Un casse-tête souvent pour les facteurs, les livreurs et un véritable agacement pour les citoyens. C'est obligatoire depuis le mois de juin dernier, mais de nombreuses communes sont en retard. En Gironde, en ce moment, c'est l'ébullition du côté de Saint-Mariens, Donzac ou Céron. Les panneaux sont en train d'être installés. Reportage Alice Marot.
Son nouveau numéro sera bientôt sur sa boîte aux lettres.
509 rue des Villas, bon, ça fait un peu chic.
Bernard est encore en train de s'habituer.
Il va falloir que je précise à des personnes qu'en fait je change d'adresse mais que je déménage pas, parce qu'ils vont se dire, ça y est, il est parti à l'EHPAD.
Et il faut aussi prévenir toutes les administrations. Jean-Pierre en profitera pour faire un tour sur Wikipédia.
J'habite maintenant à rue Jeanne de Motte, comme beaucoup avant c'était lieu dit. Et donc Jeanne de Motte, je ne sais pas qui c'est cette Jeanne de Motte.
En tout cas, grâce à elle, les colis arriveront à bon port. Pas trop tôt pour Béatrice et Micheline.
Dans les petites ruelles, il n'y avait pas de nom, rien du tout. Puis je vois derrière, c'était 23 bis, il y a 23 terres, tout ça. Que là, ça sera plus logique, quoi.
Il va juste falloir apprendre les noms des rues, maintenant.
Oui, oui.
Là, par exemple, vous savez dans quelle rue on est?
Ah oui, mais là, c'est la 1113, ça je sais, oui.
Elle a un nom, maintenant?
Ah là, non, mais non, mais ça je savais pas, non. Ah bon.
Elle s'appelle maintenant la route des grands vins. Alors faisons un petit test.
Dans 150 mètres, prendre à gauche sur place Charles de Gaulle.
C'est bon, le GPS a bien intégré la nouvelle adresse de la mairie. Et on y retrouve le maire, Jean-Patrick Soulet.
Le nom de rue, c'est l'identité de la commune aussi. Par exemple, ce bâtiment, autrefois, c'était un casino, etc. Qui s'appelait la Grappe d'Or. Et donc, du coup, maintenant, on va appeler l'impasse qui est ici, l'impasse Grappe d'Or.
Ces panneaux, tout neufs, ont coûté 20 000 euros à la commune.
Reportage Alice Marot d'ici Gironde. Alors ce changement d'adresse, c'est obligatoire, mais pour l'instant, il n'y a pas de sanction pour les communes qui n'ont pas régularisé leur situation. C'est la saison des vœux en ce mois de janvier, jusque sur Parcoursup, la plateforme d'orientation vers les études supérieures accueille à partir de ce matin les vœux des lycéens et étudiants qui se réorientent. 24 000 formations sont proposées, 10 vœux par personne maximum à formuler jusqu'au 13 mars. Lui, il a réalisé son rêve, c'est un grand deuxième pour une première. Johan Richaume, les bras en l'air dans son ciré rouge, a bouclé le Vendée Globe en 65 jours, 18 heures, 10 minutes et 2 secondes exactement. Pour sa première participation, c'est un véritable exploit avec un temps canon à moins d'une journée de Charlie Dalin. On se souviendra longtemps de leur régate autour du monde, tant ces deux-là ne se sont pas lâchés. Alors son sentiment à l'arrivée ?
Franchement, de la fierté. Soulagement, pas tant que ça. Ça aurait pu l'être parce que je m'attendais à vraiment trouver le temps long. Alors bon, d'un autre côté, on n'a pas mis beaucoup de temps, donc ça aide aussi. Mais non, la fierté du projet, d'être parti d'une page blanche il y a 3 ans, de signer 2 victoires en Transat, 1 deuxième place au Vendée Globe. Voilà, d'avoir réussi à embarquer un peu tout ce petit monde avec moi. Ça, c'est une vraie fierté aujourd'hui.
Et Charlie Dalin, il y a 4 ans, disait « J'avais franchi la ligne et déjà, je pensais au Vendée Globe d'après ».
Oh, c'est un peu tôt, j'aimerais bien me laisser le temps de la réflexion. Alors déjà, ça dépend pas que de moi, hein, bien sûr. Je vais les formuler différemment, je suis assez étonné du plaisir que j'ai pris sur cet événement. Je pensais vraiment que ça allait être la croix et la bannière. Ça l'a pas totalement été, ça peut l'être, je pense, dans un scénario qui est beaucoup plus difficile. Et du coup, c'est vrai que j'arrive à plus me projeter dans un avenir là-dessus. Après, voilà, je n'ai pas un grand amour pour le solo non plus. Je suis obligé de continuer parfois, donc voilà, on verra.
Johan Richaume, interrogé par Jérôme Val, et après 65 jours de solitude aquatique, la foule dans le chenal des Sables d'Olonne, et pour les spectateurs, aussi un grand moment d'émotion capté par Clara Le Coq-Réal.
Johan a vraiment levé les bras presque tout le long du chenal avec ses flambeaux. Le ciel était rose carmin, c'était magnifique. Il y avait beaucoup de monde, et c'est son premier Vendée Globe en plus.
Johan Richaume !
Il est passé le premier au Cap Horn.
Finir deuxième, je pense que dans 4 ans, ça va faire du mal.
Premier bisu de ce Vendée Globe.
Comme je disais, pendant 10 jours à 25 nœuds, il faut déjà les mener, les machines, ce n'est pas des petits bateaux. Hein.
Des fous furieux avec un peu d'inconscience, mais c'est chouette. Ouais.
Il est très convivial, on voit bien qu'il est proche des gens. Quoi.
C'est un skipper très sympathique.
Voilà, c'était le micro de Clara Le Coq-Réal sur les pontons au Sable d'Olonne. Le jour de gloire est arrivé pour le FC Escalie. Quoi qu'il arrive ce soir, ce 16e de finale de la Coupe de France de football est un graal pour le petit club amateur auvergnat. Il rencontrera le PSG au stade Michelin de Clermont-Ferrand à partir de 21h.
Moteur.
T'as de bons yeux, tu sais.
C'est tout joli, mes fesses.
Les sorties ciné du jour, c'est avec vous Alexis Demeyer, bonjour.
Bonjour Christelle.
Cette semaine, vous nous recommandez Spectateur, au pluriel et avec un point d'exclamation d'Arnaud Desplechin.
Un cinéaste qui nous a déjà beaucoup habitués à des envolées autobiographiques, mais avec ce 13e long métrage, Desplechin assume le récit à la première personne, celui de son expérience de spectateur, c'est-à-dire de cinéphile.
Le cinéma, c'est pas une réponse, c'est une question. C'est une façon d'interroger l'art, d'interroger le monde.
Une place pour cri et chuchotement, s'il vous plaît. T'as quel âge ?
J'ai 16 ans, madame.
La voix du toujours formidable Milo Machado Graner, découvert dans Anatomie d'une chute et qui interprète ici l'un des nombreux doubles d'Arnaud Desplechin, puisque le réalisateur entre autres de Roi Zérène et d'Esterkane se met en scène à tous les âges de sa vie face à ces grands chocs artistiques sur grand écran, souvent passionnants, parfois émouvants, parfois excluants, voire énervants aussi. Spectateur nous permet en tout cas de mieux comprendre le parcours et les inspirations de ce très grand cinéaste made in France.
Et puis vous nous conseillez aussi Mémoire d'un escargot, c'est un film d'animation australien.
Dad used to say that childhood was like being drunk. Everyone remembers what you did.
Grace adore son frère jumeau et collectionner les escargots, mais à la mort de leur père, les deux enfants sont séparés et Grace se retrouve dans une famille d'accueil à l'autre bout de l'Australie. Elle va y subir des maltraitances et du harcèlement scolaire, puis beaucoup d'autres mésaventures tragiques et parfois comiques. Ce très joli film d'animation réalisé en stop motion, vous savez Christelle, comme Wallace et Gromit ou Mr. Fox, a reçu le premier prix lors du dernier festival d'Annecy. Il n'est pas franchement destiné aux jeunes enfants, vous l'aurez compris, mais les ados et les adultes peuvent foncer dans le cinéma le plus proche. Mémoire d'un escargot est tout sauf une coquille vide.
Un documentaire aussi à l'affiche, Alexis, ça s'appelle Dreamland.
Oui, un quatuor de jeunes réalisateurs et réalisatrices français a eu la bonne idée de filmer des jeunes du monde entier, plus de 200, et de les interroger sur leurs rêves.
La gente necesita como una esperanza.
Les profils des témoins sont variés, leurs réponses aussi, mais ils ont pour point commun d'être de la même génération, en gros d'avoir 20 ans en l'an 2020, mais aussi d'avoir des projets, des envies et donc des espoirs pour leur futur, pour notre futur. Malgré une mise en scène trop sage et trop classique, Dreamland est un très joli documentaire qui regorge de scènes fortes et mémorables.
Et quoi d'autre en salle cette semaine, Alexis ?
Le quatrième mur, adapté du best-seller de Sorge Salandon avec Laurent Lafitte dans le rôle d'un metteur en scène français qui se rend à Beyrouth en pleine guerre du Liban au début des années 80. Je suis toujours là, un thriller de Walter Salles qui lui se déroule pendant les années 70 et la dictature militaire au Brésil. Et Par amour, un drame familial avec Cécile de France dans le rôle d'une mère courage.
Merci. Et sachez aussi, ça va vous intéresser, que le thriller papal Conclave et la comédie musicale de Jacques Audiard et Emilia Pérez sont en tête des nominations au BAFTA. Ce sont les récompenses britanniques du cinéma, c'est les Césars anglais. Hein.
Exactement, et donc Cocorico, une fois de plus,
voilà.
Pour Emilia Pérez.
Et cérémonie donc le 16 février à Londres. Merci Alexis. 13h28 sur Inter. À suivre dans la prochaine demi-heure, la réforme des retraites remise en chantier. C'était la principale annonce du Premier ministre hier. Ni totem, ni tabou. Il renvoie la balle aux partenaires sociaux. Nous serons avec François Asselin, président de la CPME, qui représente donc les petites et moyennes entreprises, et Sandrine Bourret de la CGT. La météo de Sébastien Léas. Le troisième épisode de notre série, nous passons une semaine dans la vie du basketteur Vincent Poirier. Et il nous dira que culminer à 2m13, c'est pas toujours facile. C'est la France. Bonjour Eric Fotorino.
Bonjour Christelle.
Au programme.
Écoutez, je vais vous parler des distorsions, parler d'héritage, et en particulier des distorsions qui mettent à mal l'égalité des chances entre ceux qui héritent d'un patrimoine ou pas, et aussi entre les hommes et les femmes à l'avantage des premiers.
Et dans C'est une chanson, bonjour Frédéric Pommier.
Bonjour Christelle.
Avec qui serez-vous tout à l'heure ?
Il s'agit de Joseph Chédid, le petit frère de Mathieu Chédid, le grand frère d'Anna Chédid, tous les trois enfants de Louis Chédid. Ils sont presque tous chanteurs dans la famille Chédid. Et avec Joseph Chédid, nous écouterons le Canadien Mac DeMarco.
Merci, à tout de suite.
France Inter, partenaire du Festival international de la bande dessinée d'Angoulême. Du 30 janvier au 2 février, venez vivre la plus grande expérience de bande dessinée d'Europe à Angoulême. Une dizaine d'expositions immersives, la plus vaste librairie de BD et de manga au monde, en présence de plus de 2000 autrices et auteurs, des masterclass, des concerts et des animations surprenantes. Des aventures, des découvertes, des émotions, pour toujours plus de lectures passionnantes. Le Festival d'Angoulême, la vie en BD, en partenariat avec Quick, un événement France Inter.
La météo.
La météo avec Bleu-Forêt, le fabricant français de chaussettes et collants. Cachemire, fil d'Écosse, soie, coton ou laine. Bleu-Forêt, un luxe français.
Bonjour Sébastien Léas.
Bonjour Christelle, bonjour à tous.
Le ciel hésite entre soleil et grisaille.
Oui, deux ambiances pour aujourd'hui. Oui. Le ciel sera bien tranché cet après-midi. Le soleil restera radieux ou légèrement voilé, des Charentes aux Pyrénées et à l'Occitanie, et de la Provence-Alpes-Côte d'Azur aux Alpes et au Jura, ainsi que sur le Finistère, le Morbihan et la Vendée. En revanche, partout ailleurs, les nuages bas resteront compacts, parfois doublés de brouillard ou de bruine. Ces nuages bas vont d'ailleurs envahir l'Auvergne et apporter un peu de neige cet après-midi. Des nappes de grisaille peuvent aussi se maintenir entre le Dauphiné et la Bresse, voire sur le nord du Midi toulousain. Et puis en Corse, le ciel sera plus partagé avec de belles éclaircies sur l'ouest, mais un voile nuageux de plus en plus épais sur l'est. Après les fréquentes gelées de la nuit, les maximales resteront également sous les valeurs de saison cet après-midi. Prévoyez 2 à 9 degrés en général, avec 6 degrés à Paris, Bordeaux, Lille ou encore à Rouen. Autour de la Méditerranée, il fera 10 à 15 degrés, mais il faudra composer avec le Mistral et la Tramontane qui restent assez forts dans leur domaine.
Et sachez que le verglas a semé le chaos ce matin sur les routes du Grand Est. Il y a eu beaucoup d'accidents de la route, dont un mortel en Alsace.
France Inter, le 13-14. Christelle Rebière.
Les retraites, elles auront décidément été au cœur du deuxième quinquennat d'Emmanuel Macron. Une réforme très contestée, un recul de l'âge légal à 64 ans mal accepté par les Français. Elle revient à la faveur de la crise politique engendrée par la dissolution. On voit combien cette question continue de tarauder notre pays, a dit hier François Bayrou. Alors, pas de suspension contrairement à ce que souhaitait la gauche, mais une remise à plat. On prend les mêmes et on recommence. François Bayrou a parlé d'un conclave sans totem ni tabou. 3 mois de discussion entre les partenaires sociaux avant une éventuelle introduction dans le prochain projet de loi de finances de la sécurité sociale. Sinon, faute d'accord, la réforme actuelle s'appliquera, ça a été dit et même redit en Conseil des ministres ce matin. Vos questions sont les bienvenues évidemment au standard comme tous les jours. 01 45 24 7000. Alors qu'en pensent les partenaires sociaux? Nous sommes en ligne avec Sandrine Mouret de la CGT en charge des négociations sur l'emploi des seniors. Bonjour.
Bonjour.
Et en studio avec nous, François Asselin, président de la CPME, la Confédération des Petites et Moyennes Entreprises. Bonjour.
Bonjour.
Alors, ça a commencé par un couac ce matin, mais finalement, la réunion annoncée entre les partenaires sociaux aura bien lieu vendredi. Est-ce qu'au fond, ce n'est pas un signe que c'est un sujet ultra sensible, Sandrine Mouret?
Bien évidemment. Et d'ailleurs, et depuis cette loi retraite, c'est un sujet sensible. Et d'ailleurs, nous regrettons que le Premier ministre n'ait pas saisi la main tendue de la CGT et des organisations syndicales pour abroger cette réforme des retraites, ou du moins, dans la séquence qui nous concerne, à minima de la suspendre et de la bloquer. C'est un vrai problème. Mmh. Et si je peux aller un petit peu plus loin dans son discours de politique générale, nous rappelons quand même que c'est grâce à la mobilisation de la CGT et de l'ensemble des salariés que le sujet est toujours d'actualité. C'est quand même... Et que les Français, les salariés, sont toujours opposés à cette réforme, au fait de travailler jusqu'à 64 ans, alors que les entreprises les licencient à partir de 50 ans pour diverses raisons.
C'est toujours un sujet sensible, François Asselin.
Oui, oui, on ne peut pas aborder le sujet des retraites comme on l'aborde là, comme je l'entends. C'est-à-dire que, d'abord, on ne peut pas s'affranchir d'une chose, c'est le principe de réalité. Quel est-il? Nous avons un système de retraite auquel nous tenons tous, qui est un système de répartition, par répartition. C'est-à-dire que c'est les actifs d'aujourd'hui qui payent les retraites des retraités d'aujourd'hui. Et donc c'est très sensible, ce système, à l'évolution démographique. Or, on a une évolution démographique qui est défavorable au régime par répartition. Donc si on ne prend pas à bras-le-corps ce sujet des retraites, eh bien demain, on ne pourra pas verser les pensions, les retraites suffisantes à ceux qui en auront droit. Donc vous avez 3 paramètres, c'est assez simple. Vous avez la durée de cotisation, c'est ce qui va déterminer à partir de quel âge vous allez partir en retraite. Oui. Vous avez le niveau de la retraite, la pension que vous allez toucher. Et puis, vous avez les cotisations. Donc, ce sont ces 3 paramètres sur lesquels il faut travailler. Et bien évidemment, le plus sensible est celui de l'âge de départ.
Ah oui, évidemment. On reprend donc la copie. C'est ce que vous souhaitiez, François Asselin, mais pas d'abrogation, contrairement à ce que vous souhaitiez à la CGT. Vous êtes donc dans 2 positions opposées, on l'entend déjà. Et c'est à vous, désormais, de vous entendre. Comment allez-vous faire, Sandrine Mouret?
Alors, premièrement, on va repartir quand même de certains points bloquants du discours de politique générale du Premier ministre. Un, nous n'avons pas de garantie qu'à l'issue de la négociation, il y ait une loi qui soit débattue au Parlement 149.3. C'est quand même un enjeu de démocratie. Il y a de la négociation, mais in fine, la loi doit être votée par les parlementaires. Deuxièmement, sur l'approche budgétaire, les chiffres avancés par François Bayrou de 40 milliards sont faux. On sait qu'à l'horizon 2030, le déficit sera de 16 milliards. Donc ce sont les chiffres
non,
du
mais là, il y a une vraie querelle de chiffres. Et c'est bien pour ça que François Bayrou a demandé une mission flash à la Cour des comptes pour dire, bon ben voilà, le chiffre c'est celui-là. Parce que ce chiffre, il est tout le temps contesté. Ça commence comme ça, François.
Oui, il faut d'abord avoir un diagnostic partagé. On a tous les éléments, c'est extrêmement documenté les retraites. On a le Conseil d'orientation des retraites, le fameux COR, qui a déjà énormément d'éléments chiffrés. Là, il va y avoir une mission flash de la Cour des comptes. Eh bien, on va démarrer effectivement en partageant un diagnostic qui est celui de la réalité, tout simplement.
Mais vous serez d'accord avec ce diagnostic, Sandrine Mouret, à la CGT, vous l'accepterez?
Nous prendrons les chiffres, je pense que nous prendrons les chiffres tels qu'ils seront posés. Mmh. Au demeurant, pour financer une réforme des retraites de progrès social, la CGT et les autres organisations syndicales, et notamment nous avons fait des propositions d'une conférence de financement. Et des chiffres apportés qui posent un diagnostic, c'est une chose. Apporter des solutions de financement pour une retraite de progrès social en sont une autre. Et donc, nous avons des propositions, et je prendrai qu'un seul exemple. L'exemple de l'égalité salariale femmes-hommes. Ça a été porté dans le discours de politique générale de François Bayrou. Eh bien, nous lui disons, banco, l'égalité salariale femmes-hommes, on la met en application très rapidement. Ce sont des financements supplémentaires pour nos caisses de retraite, et y compris pour répondre aux revendications des salariés, et pour aller vers une retraite de progrès social, et notamment pour un retour à 62 ans, voire 60 ans. Il y a un diagnostic et nous pouvons aussi faire des propositions de financement.
Alors par exemple, quelles propositions de financement vous avez à la CGT ?
Eh bien, nous avons par exemple l'égalité salariale femmes-hommes. Ça rapporte, si on la met en application, c'est une vieille lanterne et qui n'est toujours pas à l'œuvre dans les entreprises. Eh bien, il y a une application de l'égalité salariale femmes-hommes, c'est 5 milliards de cotisations supplémentaires, grosso modo. Nous avons d'autres comme soumettre à cotisation tous les revenus, que ce soit la participation, l'intéressement, ce sont des revenus supplémentaires. C'est ce que nous voulons, avec une réforme, au-delà du diagnostic, faire des propositions de financement pour une réforme de progrès social. Ça aussi, ça doit faire partie de la négociation.
Et François Asselin, il disait tout à l'heure, il y a trois paramètres. Le niveau de cotisation, la durée, le niveau des pensions. Vous voulez toucher à rien du tout ?
Non.
François Asselin, et puis ensuite Sandrine Mouret. Allez-y. François Asselin, d'abord.
Oui, non, nous ce que nous disons, c'est que, d'abord, vous savez, la réforme actuelle, il y a quand même, il faut le souligner, il y avait quand même trois éléments extrêmement importants qui ont fait d'ailleurs que la CPME a soutenu cette réforme. C'est que premièrement, on voulait un minimum contributif. Et nous l'avons dans cette réforme. Avant, ça n'existait pas. C'est quoi le minimum contributif ? C'est lorsque vous travaillez toute votre vie, avec un petit salaire, vous allez arriver en retraite avec minimum 85% du SMIC. Ça, c'est quand même une sacrée avancée sociale. Nous y tenions à la CPME. La deuxième chose, c'est que nous voulions sécuriser le dispositif carrière longue. En clair, vous commencez à travailler de bonne heure, vous partez avant les autres. Nous l'avons sécurisé, ce dispositif. C'est quand même pas rien. Il reste une troisième chose, et là c'est vrai que c'est la responsabilité des partenaires sociaux, et là on a vraiment du grain à moudre là-dessus, c'est tout ce qui concerne les métiers à usure professionnelle. Et là je pense, voyez-vous, qu'entre partenaires sociaux, on peut faire des choses intelligentes.
Mais là sur l'usure professionnelle, vous êtes d'accord à la CGT, Sandrine Mouret ?
Il y a un constat. Il y a un constat, c'est-à-dire que, un, actuellement, dans les entreprises, la pénibilité n'est pas reconnue, et on constate que les salariés usés par le travail sont toujours sortis de l'entreprise, ils sont mis licenciés pour inaptitude ou invalidité, donc ça c'est un fait, et les dernières négociations sur l'emploi des seniors n'ont pas permis de trouver des issues. Deuxièmement, je voudrais réaffirmer que, sur le financement de nos régimes de retraite, effectivement, il y a l'âge. Et là, c'est bon, 64 ans, nous avons vu que les salariés n'en veulent pas et que, qui plus est, peu arrivent jusqu'à 64 ans. Et que faisons-nous de ces salariés usés par le travail ? Deuxièmement, eh bien, il y a le volet recettes. Et celui-là, nous voulons en parler. Comment fait-on pour augmenter les recettes, pour avoir un financement de nos régimes de retraite, de progrès social, qui permettent aux salariés d'avoir du progrès des pensions de qualité, de partir à la retraite en bonne santé et pas cassé par le travail, et avoir une vraie reconnaissance de la pénibilité.
On va prendre un premier appel, c'est celui de Didier qui est au standard. Bonjour.
Oui, bonjour. Bonne année à tous.
Bonne année à vous. Nous vous écoutons.
Merci. Et ma question, c'est de savoir s'il n'est pas possible de se mettre, ça a été évoqué un petit peu, à réfléchir à un nouveau système pour le rendre pérenne, parce que ça revient sur le métier, ça revient sans arrêt sur le métier.
Oui.
Donc j'imagine le régime général plus un régime de capitalisation obligatoire à partir d'un certain montant de revenus. Mmh. Parce qu'il y a des revenus où ils ne peuvent pas capitaliser afin de pouvoir soulager le régime général. Quant à l'âge de la retraite, j'aime mieux entendre parler d'usure, parce que je pense que l'être humain a une usure pour tous à peu près au même âge.
Mm-hmm.
Et on continue à travailler, quel que soit son travail, ça, c'est plus ou moins difficile, mais il faut mettre ça en compte. Et le terme usure est vraiment le
approprié,
plus adapté.
Oui. Voilà. Allez, on commence, merci beaucoup Didier, parce que c'était très intéressant les questions que vous souleviez. On commence par le régime par capitalisation. Ça, je sais qu'à la CPME,
oui,
c'est l'un de vos chevaux de bataille,
c'est
monsieur
Asselin. Bien sûr, de nos chevaux de bataille. Didier, d'abord, vous, effectivement, vous donnez de l'eau à mon moulin. Pourquoi ? Parce que, comme je vous le disais, eh bien, le régime par répartition est très sensible à l'évolution démographique. Et nous, ce que nous disons, c'est que c'est l'occasion, justement, entre partenaires sociaux, allez, je vais essayer de d'éviter un gros mot qui est capitalisation, de dire l'épargne pour tous, c'est maintenant. L'idée est la suivante. On garde notre régime par capitalisation et on met en place, par répartition, on met en place, à côté, une capitalisation obligatoire. Et ça peut concerner tous les salariés. Pourquoi ? Parce qu'au niveau de l'AGIRC-ARRCO, les retraites complémentaires, il faut savoir que nous avons des excédents budgétaires. C'est pour ça que les partenaires sociaux sont quand même de faire très bien les choses lorsqu'ils sont en gestion collective. Et nous, ce que nous disons, eh bien, en gestion collective, on commence à mettre de l'épargne pour tous, gérée par les partenaires sociaux, quel que soit le niveau de salaire, avec les excédents que nous avons à l'AGIRC-ARRCO. Et sur 10 ans, sur 20 ans, sur 30 ans, eh bien, petit à petit, en complément du régime par répartition, eh bien, on viendra amortir l'évolution défavorable de la démographie. Voilà quelle est notre idée. Et puis finalement, moi je suis quand même très heureux d'être dans un pays où finalement on donne une énorme responsabilité aux partenaires sociaux. Vous connaissez beaucoup de pays quand même qui disent aux partenaires sociaux, mais écoutez, si vous me trouvez un dispositif des retraites meilleur que celui-ci, eh bien on le prend. Mais c'est quand même extraordinaire. Soyons, entre guillemets, au rendez-vous de l'histoire.
Soyons au rendez-vous de l'histoire, Sandrine Mouret. Vous, alors, je sais qu'à la CGT, la retraite par capitalisation, c'est un tabou.
Pas un tabou, c'est pour plusieurs raisons. Un, je rappelle que l'AGIRC-ARRCO est un régime par répartition. Par point, mais c'est un régime par répartition. Faut le préciser. Deuxièmement.
Oui, ce sera un régime supplémentaire.
Supplémentaire, oui, en complément de l'AGIRC-ARRCO.
Il ne se substituerait pas.
Mais géré par les partenaires sociaux.
Oui, mais un régime par capitalisation suppose, n'est pas un régime par répartition. Le régime par répartition, ce sont les retraites, les cotisations d'aujourd'hui qui financent les pensions d'aujourd'hui. Un régime par capitalisation, ce n'est pas ça. C'est chacun se constitue
mais,
un bas de laine que l'on
mais
place.
En complément, ce serait, en plus, ce serait un deuxième régime.
Permettez-moi de continuer. Permettant effectivement, placer sur les marchés financiers, aux aléas des marchés financiers. Rappelez-vous la crise de 2008, aux États-Unis, qui sont composés principalement de régimes par capitalisation, pour beaucoup de salariés, ils ont été ruinés. Pour nous, le régime par capitalisation a deux dangers. Ce premier-là, placement effectivement à risque sur des placements financiers. Deux, permettez-moi de continuer, ils sont très injustes. Mmh. Selon votre niveau de rémunération, un, ils sont risqués.
En gestion collective, madame.
Selon votre niveau de rémunération, eh bien, vous ne pouvez pas placer la même somme et vous n'aurez pas non plus le même rendement.
Ah ben, donc, selon votre niveau de rémunération, y compris sur la régime par répartition, eh bien, vous n'avez pas le même niveau de retraite. Et vous savez, dans la fonction publique, le régime par capitalisation, il existe. Ça s'appelle les RAF. Et les partenaires sociaux, y compris la CGT, sont autour de la table. Donc il y a dans notre pays de grands capitalistes.
On repart au standard, retrouver Denis qui est en Seine-Maritime. Bonjour Denis.
Oui, bonjour.
Nous vous écoutons.
Bon, bonjour. Écoutez, voilà, moi je suis excédé d'entendre tous ces débats sur l'âge de départ en retraite qui était inutile puisque un jeune qui travaille à 21 ans plus 43 années durée de cotisation, ça fait 64. Mmh. Alors pourquoi on ne débat jamais d'un problème qui pourrait aider le financement de la retraite, c'est-à-dire les règles de cumul emploi plus retraite qui ont été totalement libérées par Sarkozy et dont certains profitent honteusement avec des salaires très élevés et des retraites très élevées.
François Asselin vous répond.
Oui, alors vous avez raison et en même temps, c'est pas si exact que ça. Hein, parce que suivant la nature de votre activité, ça fonctionne plus ou moins bien. Hein, parce qu'il ne faut pas oublier que la retraite, ça ne concerne pas simplement les salariés. Hein, vous avez les indépendants, vous avez les fonctionnaires. Hein. Mais oui, c'est un sujet. Ce qu'il ne faut quand même pas oublier, voyez-vous, c'est qu'en 1983, quand les retraites sont passées de 65 à 60 ans pour remonter progressivement à 64 ans, depuis 83, nous avons gagné 8 ans d'espérance de vie. C'est quand même une bonne nouvelle, voilà. Et donc, si aujourd'hui, on se dit, pour s'en sortir collectivement, il faut arriver à travailler plus longtemps, ben, écoutez, ça ne me semble pas une torture. Pour autant, il faut penser, nous y sommes attachés, à ceux qui ont des métiers physiquement usants.
Si pas d'accord, la réforme actuelle s'appliquera. François Bayrou l'a dit hier, ça a été redit ce matin à l'issue du Conseil des ministres. Au fond, ça veut dire que tout ça n'aura servi à rien si vous ne trouvez pas d'accord, Sandrine Mouret.
Alors, je me permets de... Je
oui, vous très rapidement, parce qu'on arrive à la fin de cette interview.
Eh bien, ici, on a gagné 8 ans d'espérance de vie. Par contre, l'espérance de vie en bonne santé, sans incapacité, celle-là ne bouge pas. Donc, il faut y être attentif. C'est aussi un curseur. Deuxièmement, eh bien, effectivement, nous, c'est un point quand même bloquant. C'est-à-dire qu'il y a négociation, mais in fine, les parlementaires doivent pouvoir débattre et voter d'une nouvelle loi sur les retraites. C'est une question de démocratie et là, nous y sommes attachés.
Mais pour l'instant, il n'en est pas
question. Alors, c'est très étonnant parce que nous sommes attachés à la démocratie sociale, voyez-vous.
Bon, merci. De toute façon, on ne va pas vous mettre d'accord, mais on a déjà une petite idée de l'ambiance qu'il va y avoir vendredi matin quand vous allez tous vous retrouver.
Elle sera studieuse.
Elle sera studieuse et passionnée. Merci à vous deux et bon vent, François Asselin,
oui,
parce
merci.
Que je sais que c'est la fin de votre mandat.
Complètement. Le 21,
semaine
ça
prochaine.
S'arrête. Oui,
voilà. Merci d'être venu
merci à vous, Christian
sur France Inter. Une semaine dans leur vie, troisième épisode de votre feuilleton en compagnie de Vincent Poirier, ce basketteur français en équipe nationale qui a signé avec le club turc de l'Anadolu Efes cette saison. Il était avant au Real Madrid, il joue au poste de pivot, il est grand et il raconte à Marie-Pierre Véraud à quel point sa grande taille l'entrave dans sa vie de tous les jours.
Vous êtes grand, hein ?
Ouais, 2m13. Ouais, j'ai toujours été grand, toujours plus grand que les autres. Bah, c'est pas facile parce que rien n'est adapté. Aujourd'hui, j'ai la chance d'avoir les moyens de m'offrir des choses qui soient adaptées, les portes, les douches, des trucs qui peuvent paraître banals pour les gens normaux, entre guillemets. Mais pour moi, c'est vrai que me lever tous les matins et devoir baisser la tête, pas réussir à rentrer sous la douche, malheureusement, être grand, ça coûte plus cher. Pour voyager en business, moi, je rentre pas en économie, donc ça coûte plus cher. Voilà, les voitures, c'est les voitures plus grandes. Les pieds aussi, ouais, les pantalons. Les pulls, les t-shirts, ça va encore, mais c'est vrai que les pantalons, c'est compliqué, quoi. C'est des tailles que la France n'a pas l'habitude de voir, que le monde n'a pas l'habitude de voir. Donc, plus jeune, c'était compliqué. Là, maintenant, ça va mieux. Puis j'ai l'habitude, donc je sais où trouver, je sais où regarder. Les chaussures, j'ai un contrat Nike, donc c'est assez facile d'en avoir. Nike fait des chaussures jusqu'au 52,5, 53, il me semble. Donc, moi, 51,5. Normalement, c'est bon, là. À 30 ans, je suis plus censé. Donc, c'est bon, je peux me faire plaisir sur les chaussures. Je sais que ça grandira plus. Là, plus jeune, c'était galère. Je me débrouillais pour trouver des pantalons qui soient assez longs. Donc, c'est des petits coups de Paris. Je commande et puis on voit si ça va. Et puis, mon frère est grand aussi, mais moins grand que moi. Du coup, bah. Quand ça me va pas, il récupère tout. Je fais comme ça, et puis des fois, c'est des coups de poker où on verra bien si ça me va ou pas. Puis ici, en plus, se faire livrer des choses en dehors de la Turquie, c'est compliqué. On se débrouille. C'est pas facile d'être grand, mais ça dépend comment on le vit, quoi. Moi, ça y est, j'ai accepté, et maintenant, c'est moi, et c'est vrai qu'avec le basket, etc., c'est plus facile d'être fier et de se sentir bien dans sa peau. Quand on commence à plus passer les portes à l'adolescence, moi je faisais du foot en plus, plus jeune. Voilà, plus de crampons, s'habiller c'est compliqué. Donc voilà, il y avait plein de choses qui faisaient que c'est pas facile d'être grand dans un monde normal. Et puis t'es adolescent, t'as envie un peu de te fondre dans la masse, d'être comme les autres, jouer au foot avec tes potes. Mais c'est vrai que quand j'ai bougé au basket et que j'ai commencé le basket, c'est là où j'ai fréquenté un monde qui était beaucoup plus grand. Et tout de suite, ça a été beaucoup plus facile au jour le jour. À l'époque, j'étais en seconde et j'ai mes potes jouaient au basket dans ma classe. Donc ils m'ont dit de venir, etc. Petit à petit, ça s'est fait. Et bon, ça a l'air d'être un bon choix. Hein. C'est pas une passion de toujours. Moi, j'ai toujours été foot. J'ai touché mon premier ballon, j'avais 17 ans. Mis mon premier panier à 17 ans. Donc, ouais, non, le basket, c'était vraiment pas. Ça m'attirait pas plus que ça. Et puis bon, après, voilà, on s'y prête. Et moi, je suis quelqu'un qui fait les choses à fond. Donc, une fois que je me suis lancé dans le basket, il fallait tout apprendre, fallait tout. Et voilà, j'avais soif de ça, et maintenant, c'est vrai que c'est pas un premier amour, mais un deuxième, on va dire. Voilà, et puis aujourd'hui, j'en vis, donc c'est encore mieux. Donc j'ai la chance d'avoir ça et de pouvoir avoir une vie où, voilà, c'est des petites personnes qui vivent dans mon environnement, mais qui doivent s'adapter à moi.
Feuilleton signé Marie-Pierre Véraud avec Stéphane Ronxin à la réalisation.
France Inter, le 13-14.
C'est la France à 13h50 avec Éric Fotorino du magazine Le 1. Comme tous les mercredis, vous nous expliquez, Éric, pourquoi la question de l'héritage est toujours aussi sensible, pour ne pas dire épineuse.
Oui, pour une raison, j'allais dire sonnante et trébuchante, chère Christelle, et pour la simple raison aussi qu'hériter n'est pas forcément mérité. Se constituer un patrimoine dépend aujourd'hui de son travail ou de sa réussite individuelle, ce que l'on doit à ses efforts et à ses talents, que de son appartenance sociale. Je suis sûr que vous avez en tête la comédie humaine de Balzac, où le personnage personnel, central, Vautrin, conseille au jeune Rastignac de faire un beau mariage plutôt que de se tuer à la tâche, comme le rappelle Julien Bisson dans son édito du 1 Hebdo, intitulé précisément « De quoi héritons-nous ?». Ce qui était vrai au XIXe siècle redevient aujourd'hui, après la parenthèse des Trente Glorieuses, où la valeur travail avait remonté dans l'échelle, sinon de l'enrichissement, au moins de la capacité à s'offrir une vie matérielle enviable.
Et quelles sont les conséquences de cette situation dans un pays comme le nôtre qui prône l'égalité des chances ?
Alors, ce retour à l'héritage, une expression forgée par l'économiste Thomas Piketty dans son ouvrage Le Capital au XXIe siècle, soulève à l'évidence la question de la justice sociale quand on est tributaire de l'argent de ses parents pour constituer son propre patrimoine. Le Conseil d'analyse économique l'affirme pourtant dans une récente étude. La part de la fortune héritée est de 60% en moyenne, là où elle n'atteignait que 35% dans les années 70. Et si on se hisse au sommet de la pyramide, 7 des plus grandes fortunes françaises sont des super héritiers. Ils font partie des 0,1% des plus riches qui reçoivent quelque 13 millions d'euros en héritage et acquittent seulement 10% de droits de succession grâce à d'habiles montages financiers. La Révolution française avait voulu un système de succession familiale démocratique. C'est comme si nous revenions au système de l'Ancien Régime, celui de la famille aristocratique que Tocqueville qualifiait de système hiérarchique et inégalitaire.
Et où vont se loger les inégalités les plus criantes en matière de succession ?
Alors évidemment, Christelle, dans le fossé entre les mieux nantis et les plus démunis en termes de patrimoine hérité. Mais à travers leur ouvrage dont le titre en dit long, Le genre du capital ou comment la famille reproduit les inégalités, deux sociologues, Céline Bessière et Sibylle Golax, montrent que si la succession est en droit formellement égalitaire, le partage des biens désavantage souvent les femmes. Dans le 1 de ce jour, les chercheuses donnent l'exemple de familles de viticulteurs dans la région de Cognac. Le domaine est systématiquement et intégralement transmis au fils qui reprend l'exploitation, les filles recevant une somme d'argent équivalente. Alors vous me direz que les femmes ne sont pas si lésées. C'est oublier que dans le souci de baisser le montant de l'impôt et des droits de succession, les biens sont souvent sous-évalués et donc aussi les compensations financières versées aux filles. J'ajoute que les femmes, dont les salaires sont inférieurs à ceux des hommes, ont moins de moyens pour racheter à leurs frères une maison de famille ou des actifs. Et enfin que les patrimoines structurels, un domaine ou une entreprise, sont souvent donnés du vivant des parents
au fils quand les filles doivent attendre le décès de leur père ou mère, ce qui en retarde d'autant pour elles le bénéfice. Vous l'avez compris, Christelle, plus de deux siècles après la Révolution, l'héritage en France n'est pas exempt de sexisme.
Il y a encore du travail. Merci Eric. Un sujet à retrouver donc sur l'héritage à partir d'aujourd'hui dans le 1 Hebdo. De C'est la France, à C'est une chanson, c'est le chanteur Joseph Chédid que l'on retrouve à votre micro aujourd'hui, Frédéric Pommier.
L'un des enfants de Louis Chédid, petit frère de Mathieu Chédid. Au début de sa carrière, il se faisait appeler Selim, mais il a donc dorénavant repris son prénom, sous lequel il sort cette semaine un nouvel album qu'il jouera en concert demain soir à la Maroquinerie à Paris. Et c'est du Canadien Mac DeMarco que Joseph Chédid a souhaité parler.
Pour ceux qui ne connaissent pas Mac DeMarco, c'est un chanteur qui doit avoir sorti déjà peut-être 4 ou 5 albums, mine de rien. Quelqu'un qui joue de la batterie, qui est multi-instrumentiste, qui réalise ses chansons aussi. Donc c'est aussi ça qui, je pense, m'a aussi touché.
Parce que vous êtes multi-instrumentiste aussi.
Oui, aussi. Et puis l'indépendance aussi, c'est quelqu'un qui a son propre label. Et puis beaucoup d'humour de second degré, ça c'est agréable aussi, j'aime beaucoup.
Il en a écrit des centaines, des chansons.
Ouais.
Celle que vous avez choisie a pour titre Blue Boy.
Ouais.
Pourquoi cette chanson, elle vous touche plus que les autres et pourquoi elle est importante pour vous ?
Bah, disons que cette chanson Blue Boy, je me fais mon histoire et je comprends quand même un peu ce qu'il raconte. Ça m'évoque vraiment le doute de l'adolescent dans ce monde vertigineux, de se dire mais pff, comment on fait ? Je me suis vraiment reconnu quoi, Blue Boy, c'était moi à ce moment-là et je me suis identifié à cette chanson.
Et au personnage ?
Et au personnage, à lui, à ce Blue Boy, au vertige de la vie, au vertige de traverser ce monde sans être pétrifié et en même temps d'y aller aussi. Il nous prend un peu par la main. Donc voilà, je me suis reconnu en fait.
Ce morceau, Frédéric, évoque donc un jeune garçon plein de doutes.
Autrement dit, un jeune garçon qui se cherche. Et chaque fois qu'il l'écoute, cette chanson ramène Joseph Chédid à ses 18 ans.
Quand j'ai eu 18 ans, je me suis dit, je vais faire de la musique. Alors j'avais Selim, mon pseudo, à ce moment-là. Parce que voilà, je pense que c'était naturel. Je trouvais ça un peu ringard de s'appeler par son nom et son prénom. Pour moi, c'était vieux chanteur de 40 ans. Maintenant, j'ai 40 ans, donc ça va. Et puis, je crois que c'était une manière un peu inconsciente de déjà prendre un tout petit peu de distance aussi avec mon patronyme, etc. Et puis pouvoir faire un peu bah voilà, mes expériences, tout simplement. Et je me posais beaucoup de questions. Ouais, beaucoup de questions, parce que c'est vrai qu'à partir du moment où tu fais quelque chose de public, bah, tu prends la parole, quoi. Donc si à un moment tu dis des bêtises, c'est pas super super. En tout cas, ce qui est évident, c'est que Blue Boy, peut-être à cette époque-là, c'était bien moi, mais c'est fou parce que je me sens tellement plus libre aujourd'hui, je me sens tellement mieux en fait. En fait, il y a un truc, c'est qu'aussi j'ai un fils, et ça m'a changé ma vie aussi. Et donc ça a guéri beaucoup de choses en fait, ça, tout de suite, parce que ça m'a permis de me re-rencontrer.
Mais est-ce que ça peut vouloir dire que au moment où vous vous sentiez Blue Boy, vous souhaitiez faire de la musique, mais ce patronyme, Chédid, c'était plus un poids qu'autre chose, et qu'aujourd'hui, vous êtes un peu libéré de ceci, vous avez repris votre prénom, Joseph Chédid, et bah, vous faites la musique que vous aimez faire.
Ce qui était fou, c'est que je pense que je ne m'en rendais pas compte. En fait, c'était inconscient. Le truc qui est compliqué, quand on est adolescent, on se définit par rapport au regard de l'autre, et moi, quand j'ai commencé à faire de la musique à 18 ans, probablement aussi influencé aussi par mon frère, souvent on me dit « Oh, ça, tu ressembles tellement à ton frère, t'as la même voix que ton frère, machin. » Et quand t'as pas les épaules à ce moment-là et que tu te construis, c'est hyper perturbant parce que t'as l'impression que les gens comprennent pas qui t'es.
Cette chanson, Blue Boy, au moment où vous la découvrez, vous disiez « Je me suis reconnu dans ce qui était dit. » Est-ce que se reconnaître dans une chanson, ça veut dire que cette chanson, elle a un effet consolateur un peu ?
Bah oui, bien sûr. On se sent compris. Et justement, par rapport à ce que je disais avant, le fait de ah t'as la même voix que ton frère ou ce genre de truc, bah tu te sens incompris dans ces moments-là parce qu'on te dit ah bah je te reconnais pas, je reconnais quelqu'un d'autre. Enfin c'est ce que ça peut donner. Donc c'est très consolateur de se sentir compris, d'avoir dit ah, ah ouais on ressent la même chose. C'est génial. C'est puissant quoi.
Blue Boy, Mac DeMarco, c'était donc Frédéric, le choix de Joseph Chédid.
Joseph Chédid qui sera en concert demain soir à la Maroquinerie à Paris, où il jouera les titres de Hey Friend, son tout nouvel album.
Merci Frédéric, on vous retrouve vous vendredi, parce que demain le 13-14 sera en direct de l'usine Duralex dans le Loiret, une usine qui revit par la volonté de ses salariés.